franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp.
Bonjour. Un ancien garde des Sceaux dont la responsabilité pénale pourrait être engagée, Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice jusqu'en mai dernier, aurait informé le député Thierry Solaire d'une enquête pour fraude fiscale qui le visait, enquête normalement confidentielle. Invité de ce journal, Jacky Coulon, numéro 2 de l'Union syndicale des magistrats. Ni pour ni contre, les médiateurs nommés par le gouvernement sur le dossier Notre-Dame-des-Landes ont remis leurs conclusions au Premier ministre, sans trancher sur le futur aéroport, le faire ou pas. Emmanuel Macron a déjà annoncé sa décision en janvier. Pour Édouard Philippe, quoi qu'il en soit, ce ne sera pas Notre-Dame-des-Landes ou rien. Un test antidopage anormal pour Christopher Froome. Le quadruple vainqueur du Tour de France a été contrôlé positif dans une étape du dernier Tour d'Espagne. Positif au salbutamol, un produit qui lui a été prescrit pour soigner son asthme. Dans ce journal également, le sommet du G5 Sahel à Paris. La France pousse à la roue pour que la force commune anti-djihadiste se mette en place très rapidement. La saga Star Wars, qui ne doit pas faire oublier les autres films à l'affiche cette semaine. Eva Bettan est là, qui veille au grain. Et puis l'histoire d'un SDF très chanceux, mais qui n'en profitera pas très longtemps. Il a empoché 300 000 euros en poussant une porte, simplement, à l'aéroport de Roissy. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Difficile d'échapper à la pluie aujourd'hui.
Mais oui, les perturbations se succèdent avec un peu de neige en montagne, du vent qui va se renforcer ce soir et cette nuit sur les régions voisines de la Manche, jusqu'à 100 à 120 km à l'heure. Seule la Côte d'Azur et la Corse garde des éclaircies cet après-midi. Il fait un petit peu moins froid, 4 à 8 degrés dans l'Est, mais ailleurs, ça se radoucit nettement avec 8 à 14 degrés.
Le bulletin complet en fin de journal. Merci.
France Inter.
Quand un garde des Sceaux renseigne un député sur une enquête le concernant, l'affaire révélée par le Canard enchaîné remonte à mai dernier entre les deux tours de la présidentielle. Le ministre s'appelle alors Jean-Jacques Urvoas et c'est au député Thierry Solaire, à l'époque député Les Républicains, qu'il aurait transmis une note de ses services résumant les investigations en cours visant le couple Solaire, soupçonné de fraude fiscale, autrement dit de n'avoir pas payé une partie de ses impôts sur le revenu. Alors s'agissant d'une enquête préliminaire menée sous l'autorité du parquet et normalement confidentielle, ça fait un peu désordre, Jean-Philippe Degnaud.
Oui, dans cette histoire, on a d'un côté donc le député Les Républicains Thierry Solaire, qui se verrait bien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, précise le Canard enchaîné. Et puis de l'autre, le ministre de la Justice sortant, Jean-Jacques Urvoas. Solaire sait qu'une enquête préliminaire est ouverte à son encontre, notamment pour fraude fiscale. Il en parle à Urvoas. Le garde des Sceaux se fait remonter par la direction des affaires criminelles de la chancellerie une synthèse de l'enquête rédigée par le parquet général de Versailles. Puis, il l'envoie à Thierry Solaire via la messagerie cryptée Telegram. Tout aurait pu rester confidentiel, mais Solaire ne prend pas le soin d'effacer le message et du coup, les enquêteurs n'auront aucun mal à le découvrir en auscultant son téléphone portable lors d'une perquisition un mois plus tard. Cette affaire, qui s'apparente à une violation du secret professionnel ou une entrave à la justice, est en tout cas entre les mains du procureur général de la Cour de cassation aujourd'hui. C'est lui qui décidera si l'ancien ministre doit être poursuivi devant la Cour de justice de la République.
Invité de ce journal, Jacky Coulon, le secrétaire national de l'USM, principal syndicat des magistrats. Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, avec cette affaire, un nouvel élément de réflexion sur le fonctionnement de l'État, autrement dit les relations entre le parquet et le gouvernement.
Oui, l'USM, comme vous le savez, se bat pour l'indépendance du parquet, indépendance que nous avons portée devant le Conseil constitutionnel, qui a rendu une décision la semaine dernière, disant que le fait que les magistrats du parquet soient sous l'autorité du garde des Sceaux n'était pas inconstitutionnel et que ça ne les empêchait pas d'être indépendants. On voit le résultat aujourd'hui, l'actualité nous donne raison, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants et sont amenés, à, en application de la loi, à faire remonter des informations jusqu'au garde des Sceaux, et après le garde des Sceaux en fait l'utilisation qu'il en souhaite.
L'avis du Conseil constitutionnel a été pris au nom de l'harmonisation de la politique pénale sur l'ensemble du territoire, ça peut s'entendre aussi.
Bien sûr, ça peut s'entendre, mais quand on énonce les motifs de cette décision du Conseil constitutionnel, on constate qu'il n'est pas du tout fait mention des remontées d'informations qui sont prévues par l'article 35 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le procureur général doit faire des rapports particuliers, soit d'initiative, soit à la demande du garde des Sceaux. Donc on est tout à fait dans un fonctionnement correspondant à ce texte, lorsque le garde des Sceaux demande au directeur des affaires criminelles un rapport sur telle affaire particulière, que le directeur des affaires criminelles demande au procureur général un rapport, et qu'ensuite ce rapport remonte jusqu'au garde des Sceaux.
Alors sur ces remontées d'informations, justement, écoutez, Jacky Coulon, ce que disait la garde des Sceaux, l'actuelle garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sur cette antenne le 6 juillet au matin.
Je n'ai pas à être tenue au courant de ce que fait la justice.
Il n'y aura pas de remontée des parquets, comme on dit.
Il n'y a pas à en avoir.
Il n'y en aura
sur
pas.
Les affaires individuelles, il n'y a pas à en avoir.
Vous n'êtes absolument pas informé, par exemple, de ce qui se passe en ce moment au MoDem.
Absolument pas.
Ni au Front National.
Absolument pas. J'écoute la presse.
Voilà, Nicole Belloubet avec Marc Fauvel le 6 juillet sur France Inter.
Oui, ça c'était la position de Madame Belloubet donc le 6 juillet. Ce que nous constatons, c'est qu'elle n'a pas abrogé la circulaire du 31 janvier 2014 qui a institutionnalisé ces remontées d'informations, circulaire qui avait été signée par Madame Taubira.
Jean-Philippe Dogneau.
Au mois de mai de cette année, donc en plein milieu de ce qui nous amène ici, le Jean-Jacques Urvoas, qui quittait donc le ministère, écrivait dans son rapport de politique pénale « Il serait des plus instructifs de revisiter cette question des remontées d'informations, laquelle continue à alimenter tous les fantasmes et toutes les spéculations ». On a finalement l'impression que les politiques, les uns après les autres, ont les mots qu'il faut dans les médias ou dans leurs rapports, et puis finalement, aucune intention.
Ah, c'est la différence entre les mots et la pratique. Les mots, moi je suis prêt tout à fait à partager ce que les propos que vous venez de lire. On voit que dans la pratique, eh bien, on est à 100 lieues de ces propos. Et quand ils parlent de fantasmes, eh bien, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réalités.
Alors là, on a un ministre de gauche qui aide un député de droite. Ça en dit long sur la possible difficulté de faire aboutir cette réforme constitutionnelle pour l'indépendance du parquet.
Ah, c'est certain, c'est même l'illustration du fait que nous n'arrivons pas à obtenir cette indépendance que nous réclamons à corps et à cri devant toutes les juridictions et toutes les instances qui sont possibles, que ce soit les politiques de droite ou de gauche, eh bien jamais nous n'avons encore réussi à obtenir cette véritable indépendance que nous réclamons.
Alors transmettre des informations, Jacky Coulon, ne veut pas dire qu'on intervient auprès des magistrats. Ces interventions-là ne sont plus de mise au niveau des instructions individuelles, ce que rappelait aussi Nicole Belloubet, vous le confirmez ?
Alors, il n'y a effectivement pas d'instruction individuelle. En tout cas, moi, dans ma pratique de magistrat du parquet, depuis 2013, il n'y avait plus d'instruction individuelle. Mais il y avait, comme je vous l'indique, des remontées d'informations. En l'occurrence, ce qui est très préoccupant, c'est que pourquoi ces informations ont-elles pu être communiquées à Monsieur Soler, qui a priori semblait susceptible d'être impliqué dans cette affaire-là? Il va falloir chercher le pourquoi du comment dans cette affaire. Si le but de Monsieur Urvoas était d'entraver la manifestation de la vérité, eh bien, il risque de tomber sur le coup du délit qui est prévu par le code pénal, qui s'appelle l'entrave à l'action de la justice. Ce délit qui est puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, il va falloir rechercher si tous les éléments constitutifs sont réunis ou pas. Pourquoi ces informations ont-elles été communiquées à Monsieur Thierry Soler ?
Éléments susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'ancien garde des Sceaux, a indiqué ce matin la procureure de Nanterre.
Voilà.
Jacky Coulon, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. Merci beaucoup.
Merci.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamps.
Le moment de la décision est venu. C'est donc officiellement aujourd'hui que les médiateurs nommés par le gouvernement sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes lui remettent leurs conclusions, lui ont remis ce matin leurs conclusions, qui ne sont pas tranchées, qui se contentent de peser le pour et le contre de façon objective, ce qui ne rassurera personne évidemment dans l'immédiat. Les pour, comme Jean-Marc Ayrault qui l'a répété ce matin, il espère que la décision penchera en faveur de ceux qui respectent le droit. Les contre, comme Cécile Duflot qui dénonce un chantage à la virilité, à la question de l'autorité de l'État. On va y revenir. Pour le Premier ministre, en attendant, il vient de le dire, c'est à l'intérêt général qu'il faut penser. Et quoi qu'il en soit, ce ne sera pas Notre-Dame-des-Landes ou rien.
Là où, jusqu'à présent, le raisonnement qui était privilégié consistait à se poser la question de savoir s'il fallait faire Notre-Dame-des-Landes ou rien, le rapport nous invite à réfléchir sur un choix qui se formaliserait plutôt de la façon suivante, Notre-Dame-des-Landes ou un réaménagement de l'aéroport de Notre-Atlantique. Un certain nombre de vérifications sur les éléments techniques qui sont mentionnés dans ce rapport seront conduites très rapidement, de façon à permettre au gouvernement de prendre, avant la fin du mois de janvier, comme s'y est engagé le président de la République, une décision. J'attire l'attention sur le fait que cette décision sera claire, qu'elle sera assumée par le gouvernement et qu'elle doit nous permettre, d'une part, de répondre aux besoins identifiés du développement du transport aérien dans le Grand Ouest, et d'autre part, de garantir un retour à la normale, notamment s'agissant des questions relatives à l'ordre public. Ce retour à la normale est légitimement attendu par l'ensemble des habitants de la région.
Édouard Philippe, il y a quelques instants à Matignon. En attendant donc que le gouvernement annonce sa décision en janvier, les trois médiateurs, l'ancien pilote Gérard Felzer, un proche de Nicolas Hulot, l'ingénieur Michel Badré, membre du Conseil économique, social et environnemental, et la préfète Anne Bocquet, ont remis leurs conclusions, dont on connaît maintenant les éléments, notamment les émissions de CO2 qui seraient 12% supérieures à Notre-Dame-des-Landes en cas d'agrandissement de Nantes Atlantique. Mais ce n'est pas la seule considération à prendre en compte. Évidemment, Rosalie Lafarge, vous êtes auprès des médiateurs qui sont en train ou qui vont s'expliquer dans quelques instants.
Oui, qui vont probablement plus tarder à arriver. Ils viennent directement de Matignon, qui est à quelques rues d'ici. Et ils vont effectivement nous présenter leur rapport dans le détail. Ils vont revenir, vous l'avez dit, sur le bilan carbone des deux options. Effectivement, 12% d'émissions supplémentaires à Notre-Dame-des-Landes. Ils vont revenir aussi probablement sur le prix de ces deux options. Si on part sur l'hypothèse de 9 millions de passagers en 2040, construire Notre-Dame-des-Landes coûterait jusqu'à 350 millions d'euros de plus que réaménager l'aéroport actuel. Mais ne pas construire Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi devoir indemniser Vinci, le concessionnaire, et ça peut aussi coûter très cher. De toute façon, ce que dit ce rapport, c'est que les deux solutions sont raisonnablement envisageables et qu'aucune n'est parfaite. Les inconvénients de Notre-Dame-des-Landes, ce sont ses effets sur l'environnement, avec l'artificialisation d'espaces agricoles et l'étalement urbain. Ceux d'un aménagement de l'aéroport actuel, ce sont les nuisances sonores, et quelle que soit la solution retenue, les médiateurs le disent, il va falloir un retour à l'état de droit et donc l'évacuation de la ZAD.
Rosalie Lafarge avec Raymond Albouy au ministère de la Transition écologique. Quelle que soit la décision, nouvel aéroport ou extension de l'aéroport existant, il y aura bien sûr des victimes, entre guillemets, habitants de Notre-Dame-des-Landes ou de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Les uns ou les autres seront directement concernés. Béatrice Duguay.
Notre-Dame-des-Landes, 2000 habitants dans le Bocage au nord de Nantes, à l'opposé ou presque au sud de l'agglomération Saint-Aignan-de-Grandlieu, près de 4000 habitants en bout de piste de l'actuel aéroport. Le bruit, ça n'est pas ce que le maire de Notre-Dame-des-Landes redoute le plus. Non, pour Jean-Paul Nau, ce projet menacerait la zone humide, les sources et les cours d'eau du secteur. Il mangerait également des terres agricoles, ce que les médiateurs ont réalisé, dit-il.
Clairement, on leur avait dit, c'est des landes, il n'y a rien. Et nous, avec un diagnostic agricole de la Chambre d'agriculture, on a pu leur démontrer qu'il y avait une vraie agriculture à Notre-Dame-des-Landes et que tous les ans, on installe au moins un jeune à Notre-Dame-des-Landes. On est quand même dans un département très dynamique, il y a beaucoup d'espaces agricoles qui disparaissent aujourd'hui. Et si l'aéroport venait à Notre-Dame-des-Landes, ce serait un accélérateur d'étalement urbain au nord de l'agglomération nantaise.
À 35 km de là, les nuisances sonores, elles, représentent aujourd'hui un danger pour les habitants de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Si l'option aménagement de l'aéroport de Nantes est choisie, le bourg se retrouve à 700 mètres d'une piste allongée. C'est la mort de ma commune, dit Jean-Claude Lemasson, le maire.
Le plan d'exposition au bruit qui serait proposé amènerait des contraintes très fortes, puisque la zone B du PEB, ce qu'on appelle la zone contraignante avec la piste est en zone A, la zone B du PEB, en fait, serait allongée jusqu'à l'église. Dans cette zone B, on ne peut construire que des infrastructures et des équipements en lien avec la plateforme. Donc tout ce qui existe sera muré, c'est-à-dire qu'on sera une ville fantôme.
De toute façon, Saint-Aignan-de-Grandlieu sera bientôt soumise à un périmètre de protection du bruit dans l'environnement, parce que le nombre de vols par an sur Nantes dépasse le seuil de 50 000. Périmètre contraignant qui pourrait entraîner la fermeture de l'aéroport la nuit ou encore le dédommagement de riverains par l'État.
Béatrice Duguay, un dernier mot provisoire sur ce dossier avec l'ancienne ministre Cécile Duflot, selon laquelle aucun responsable politique ne défend en réalité ce projet d'aéroport. Pour elle, même François Hollande trouvait que ce n'était pas une bonne idée. Il ne l'a pas dit publiquement, dit-elle, mais il l'a dit à moi. Certains diront que ça devait arriver. Christopher Froome, surpris par la patrouille antidopage, ce n'était pour beaucoup qu'une question de temps. L'imbattable quadruple vainqueur du Tour de France a été contrôlé positif au dernier Tour d'Espagne qu'il a d'ailleurs remporté. Annonce faite ce matin par l'Union Cycliste Internationale, Fabrice Rigobert. Les analyses ont révélé une forte concentration de salbutamol, un bronchodilatateur utilisé contre l'asthme.
On parle d'un contrôle antidopage anormal pour l'instant. Il remonte à la 18e étape du Tour d'Espagne. Le 7 septembre, le coureur a été informé le 20 septembre dernier. L'échantillon B a confirmé le caractère anormal donc de ce contrôle. Dans les textes, l'utilisation de salbutamol contenu dans la ventoline pour traiter l'asthme est autorisée jusqu'à un seuil de détection de 1000 nanogrammes par millilitre de sang en compétition, sans aucune justification thérapeutique. Cela correspond à une quinzaine de bouffées du médicament destiné à dilater les bronches. Le taux de Christopher Froome était deux fois supérieur. Ce matin, dans un communiqué de son équipe, le Britannique a rappelé qu'il souffre d'asthme depuis son plus jeune âge. Il a d'ailleurs bénéficié dans sa carrière de plusieurs utilisations à usage thérapeutique, les fameuses AUT. Il explique que son asthme s'est aggravé pendant le Tour d'Espagne, qu'il a suivi les conseils du médecin de son équipe pour augmenter le dosage, sans toutefois vouloir dépasser les limites. La Sky dit vouloir établir les faits, comprendre ce qu'il s'est passé. S'ils ne parviennent pas à prouver leur bonne foi, ils risquent alors une suspension et la perte du Tour d'Espagne, sans compter, pourquoi pas, une absence au prochain Tour de France. Mais nous n'en sommes pas là, le dopage n'est pas encore prouvé. Pour terminer, Alessandro Petacchi, en 2007, le coureur italien, le sprinter, a été pris pour exactement le même cas du salbutamol. Il a écopé d'un an de suspension.
Et on se rappelle aussi de l'affaire Induren, c'était un petit peu...
Il avait été innocent.
À peu près la même chose. Il dit avoir suivi donc les conseils de son médecin, Christopher Froome, lequel lui avait conseillé d'augmenter les doses. Reste à savoir s'il est allé au-delà des prescriptions, car oui, pour le docteur Gérard Guillaume, oui, on peut être champion de haut niveau et asthmatique. Tout est question de dosage dans le traitement.
Les sports d'endurance, comme le vélo, comme le ski de fond, comme le marathon, ce sont des sports qui ont pour conséquence de générer des asthmes d'effort, si vous voulez, et qui nécessitent le recours à des traitements qui à base de salbutamol, comme la ventoline, par exemple. Le problème, si vous voulez, c'est que le salbutamol pris par inhalation permet, c'est un vasodilatateur, ce qui permet d'améliorer la qualité de la respiration sans pour autant améliorer la performance. En revanche, on peut rechercher avec le salbutamol un effet anabolisant et qu'on ne peut pas avoir avec l'inhalation. Il faut le prendre soit sous forme de perfusion, soit sous forme de comprimé, soit sous forme de suppositoire. Et à ce moment-là, les doses ne sont plus les mêmes. Donc vous avez un seuil qui est toléré, et au-delà de ce seuil, c'est contrôlé positif. Tout le problème est là.
Voilà, Gérard Guillaume, ex-médecin de la Française des Jeux, au téléphone de Fabrice Abgral. À l'étranger, une urgence sécuritaire au Sahel, c'est ce qui explique le sommet réuni à Paris ce mercredi par Emmanuel Macron, au château de la Celle-Saint-Cloud, très exactement, sommet des pays du G5 Sahel, engagés dans la lutte anti-djihadiste et auxquels vont se joindre l'ONU, l'Union Européenne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique. Pour le président français, la mise en place de cette force commune qui doit rassembler 5000 hommes avant l'été prochain n'est pas assez rapide. Et en attendant, eh bien c'est la France qui continue d'apporter son soutien aux pays du Sahel avec ses 4000 hommes de l'opération Barkhane, Nathalie Hernandez.
S'entraîner, c'est le maître mot. Avec les forces françaises, des militaires maliens, nigériens ou burkinabés ont déjà effectué une première opération, Obi, la vache noire. L'objectif, s'approprier et partager des savoir-faire, explique le colonel Patrick Stégère de l'état-major des armées.
Très concrètement, c'est par exemple la progression d'un convoi avec des véhicules et c'est la réaction à une embuscade, c'est la réaction à une attaque par engin explosif improvisé. Donc ce sont des procédés qui doivent pouvoir être partagés entre ces armées, parce que il peut y avoir, à un moment donné, comme ses conjoints, il peut y avoir des militaires maliens et nigériens qui vont avoir, temporairement, à travailler ensemble. Et donc le fait d'avoir ces procédés et procédures conjointes, on est tous d'accord sur ce qu'on fait, et donc ça évite les malentendus et ça permet d'être plus efficace.
Les soldats de la force conjointe apprennent également à se servir du matériel cédé par la France pour un montant de 8 millions d'euros. Trois compagnies, soit 450 hommes, vont bénéficier d'une cinquantaine de véhicules et d'équipements pour détecter les engins explosifs improvisés.
Nathalie Hernandez, un changement de ton constructif pour le Kremlin. Le nouveau discours américain sur la Corée du Nord est plutôt bien reçu à Moscou, qui dénonçait la rhétorique guerrière du président américain. Hier, son secrétaire d'État, Rex Tillerson, a dit être prêt à entamer avec Pyongyang des discussions sans conditions préalables. Donald Trump, qui avait pris un pari risqué en soutenant en Alabama, dans une élection sénatoriale partielle, un candidat ultra-conservateur, Ray Moore, lequel, qui plus est, était visé par des accusations d'agression sexuelle contre des adolescentes. Il avait pris un risque et il a perdu. La victoire du démocrate Doug Jones est une très mauvaise nouvelle pour le président américain. Elle pourrait augurer d'une vague démocrate aux élections parlementaires de mi-mandat. D'ores et déjà, d'ailleurs, la majorité républicaine ne tient plus qu'à un fil au Sénat. Où va donc faire son entrée ce nouvel élu, nouveau venu dans le débat politique, Luc Le Monnier, un petit air de dégagisme là-bas aussi.
Ah oui, c'est pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Et pour l'avenir, c'est en effet peut-être le début d'une remontada démocrate. Imaginez que Doug Jones, 63 ans, ancien procureur fédéral, ne s'était jamais présenté à une élection et qu'il le faisait ici pour cette sénatoriale dans un État conservateur depuis un quart de siècle. Ajoutons que le candidat républicain avait le soutien appuyé du président Trump, lui-même tombeur en Alabama d'Hillary Clinton en 2016, avec une trentaine de points d'avance. Autant dire que c'était théoriquement plié. Et puis les casseroles du conservateur accusé de pédophilie, ses soutiens qui se sont étiolés au fil des semaines, la mobilisation en faveur de Doug Jones, d'Hillary Clinton et de Barack Obama, plus les donations financières qui ont afflué, plus les voix de l'électorat noir qui a voulu saluer le combat victorieux qu'avait mené le procureur dans les années 90 contre le Ku Klux Klan. Tout cela a fait basculer le vote. Pas de beaucoup, mais suffisamment. Suffisamment en tout cas pour redonner de l'espoir aux démocrates en vue des élections de mi-mandat où se jouera le sort du Congrès. Pourquoi pas, on peut rêver, celui de Donald Trump dont la destitution pourrait devenir d'actualité.
Donald Trump accusé ce matin par le président palestinien Mahmoud Abbas d'avoir offert Jérusalem en cadeau au mouvement sioniste. Mahmoud Abbas pour qui les États-Unis n'ont plus de rôle à jouer dans le processus de paix. Jérusalem est et restera la capitale de l'État de Palestine, dit-il. Il n'y aura ni paix ni stabilité sans cela. En France, c'est une longue concertation qui démarre sur ce qui sera sans doute le deuxième grand chantier du quinquennat. Après la réforme du travail, la réforme de l'assurance chômage, dont commencent à débattre aujourd'hui les partenaires sociaux au ministère du Travail. En attendant, c'est la réforme du logement. Pas simple non plus, qui se prépare avec, entre autres, ce qui fait polémique, la baisse programmée des APL, que doit accompagner en théorie une baisse des loyers. Mais face à la fronde des bailleurs sociaux, inquiets de ce que la mesure pourrait leur coûter, le gouvernement a changé de méthode et lancé hier soir une conférence de consensus pour mieux discuter, autrement dit. Sauf qu'en même temps, on apprend au passage que le gouvernement prévoit de faire passer certaines mesures sensibles par ordonnance, peut-être un peu contradictoire, Claire Chaudière.
Certains acteurs du logement social racontent s'être étranglés hier en découvrant dans le document de l'avant-projet de loi au chapitre « Réforme du secteur HLM » que les principales mesures seraient passées via une habilitation à légiférer, en d'autres mots, par ordonnance. Alors quand le gouvernement qualifie cette conférence de consensus de, je cite, « première historique », Frédéric Paul, le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat, décrit plutôt un risque de déni de démocratie, historique lui aussi.
C'est la première fois qu'on le voit écrit dans un document officiel. C'est complètement impensable. C'est comme si c'était une question qui peut se traiter à un niveau purement technocratique. On a l'impression que le secteur HLM, parce qu'il est à portée de main des pouvoirs publics, est le bouc émissaire des difficultés éventuelles des finances publiques. C'est pas possible.
Une conférence de consensus au cours de laquelle les représentants du monde HLM essaieront donc de convaincre de la nécessité d'avoir un vrai débat au Parlement sur des points éminemment politiques comme la fixation des loyers du parc social ou encore la question du regroupement des organismes HLM jugés bien trop nombreux par le gouvernement, plus de 700 répartis sur l'ensemble du territoire.
Claire Chaudière, allez, c'est mercredi, au cinéma, on ira. On ira voir Star Wars, par exemple, c'est une option.
C'est
hein,
comme
les,
vous voulez.
Les derniers Jedi, nouvel épisode de la saga lancée en 77 par George Lucas, à l'affiche dans un millier de salles en France, mais sans Harrison Ford, puisqu'il est mort dans l'épisode précédent. Pour tout savoir sur le phénomène Star Wars, on peut consulter le site franceinter.fr. On peut aussi choisir d'attendre un peu et de donner leur chance à d'autres films, Eva Bétan.
Oui.
Par exemple, La fiancée du désert, premier film de deux jeunes réalisatrices argentines. Elles étaient à Cannes, dans la sélection Un certain regard, un film qui raconte de façon subtile, dites-vous, la vie d'une employée de maison.
Alors, c'est un road movie et un film social. Vous allez me dire que l'attelage n'est pas fréquent. Et l'intelligence de ce film tient dans le dosage entre les deux, entre le plus et le moins. Ce qu'on montre et ce qu'on suggère. Comment un sujet a l'air d'en cacher un autre alors qu'en fait, il le met en valeur. Au début du film, nous voyons deux femmes. Elles ont l'air proches l'une de l'autre, physiquement, mais aussi presque intimement. C'est filmé de loin, délicatement, et on comprend que l'une est la patronne de l'autre et on entend qu'elle vient de la licencier parce qu'elle n'a plus les moyens de la payer. Pas un mot de reproche de la part de l'employé. C'est doux et c'est violent à la fois comme scène. L'héroïne du film, ce sera elle, ce sera donc cette femme, Teresa, l'employée de maison qui a plus de 50 ans, et elle part en car pour son nouvel emploi. Panne de car, perte de sac, ce sont les arguments, le machin si vous voulez, qui n'a pas grande importance mais qui fait avancer le film et qui fait qu'elle est là, dans l'immensité de la nature, qu'elle est libre, qu'elle respire et qu'elle fait une rencontre. Alors ça pourrait être une escape story, vous savez, il y a un réel qui est affreux et on vous dit non mais finalement c'est pas si grave, et là ce serait obscène. Non, on ne nous dit pas, c'est formidable, elle a rencontré l'amour dans ce qu'elle a vécu avant et pas grave, parce que vous allez avoir des flashbacks bref sur sa vie d'avant mais qui sont très puissants. Vous allez voir par exemple qu'elle a élevé l'enfant de la famille et que le paternalisme, c'est oui, c'est presque la famille mais c'est pas la famille. Parce que la famille, on ne la licencie pas. Donc tout ça, c'est pas dit, c'est en creux. Et vous voyez tout ça à la fois, tout ce que peut être une vie ratée, en quelque sorte, une vie étouffée plus exactement, et ça ressort par ce dosage entre les deux, et c'est ça qui est vraiment très intelligent.
Et quand vous aimez, vous êtes intarissable. Ça s'appelle La fiancée du désert de Cécilia Attan et Valeria Pivato, et donc rien sur Star Wars. Hein.
Non, mais vous allez en parler très bien. Et l'actrice qui joue dedans est très très bien dans mon film argentin, Paulina Garcia.
Et puis on peut noter le dernier film tourné par Harry Dean Stanton avant sa mort, ça s'appelle Lucky, comédie dramatique de John Carroll Lynch. Allez, une belle histoire pour terminer, une belle histoire qui pourrait faire un film. Ce SDF habitué de l'aéroport de Roissy qui a réussi le coup parfait en empochant sans coup férir 300 000 euros juste en poussant une porte au hasard, Mélodie Pépin.
Le hasard est un étonnant concours de circonstances dans ce vol. Pas de violence, pas d'effraction, si ce n'est que tout d'un coup, ce SDF s'est retrouvé face à beaucoup de billets et il s'est servi. En fait, il est en train de fouiller les poubelles dans le terminal 2F quand il s'appuie contre une porte qui n'est pas fermée, elle s'ouvre et là, il se retrouve dans le centre fort de la société de transport de fonds Loomis. C'est dans ce local que l'on entrepose le liquide des commerces de la zone et l'argent injecté dans les distributeurs. Le sans-abri entre et ressort quelques minutes plus tard, riche de 300 000 euros, deux gros sacs remplis de billets. Entre-temps, l'alarme se déclenche, mais trop tard, quand la police aux frontières arrive sur place, il n'y a plus personne. Depuis, aucune trace du voleur, un homme d'une cinquantaine d'années qui a été identifié. L'enquête est menée par la police aux frontières et la PJ de Seine-Saint-Denis. L'entreprise Loomis, de son côté, refuse de communiquer. Personne, pour l'instant, n'est capable d'expliquer pourquoi la porte de ce centre-fort sécurisé est restée ouverte.
Pas sûr que l'intéressé en profitera très longtemps. Bon Noël à lui en attendant.
La météo avec les dindes fermières de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Un temps perturbé, Elodie Calac.
C'est souvent gris avec de bonnes pluies entre le nord de l'Auvergne, le nord-est, au nord de la Seine, mais aussi du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-ouest. Ailleurs, les pluies sont temporairement plus éparses. Le vent souffle un peu partout, jusqu'à 70 à 80 km à l'heure. Ce soir et cette nuit, ça se gâtera un peu plus par le nord. Un temps agité va gagner le nord de la Loire avec des averses, du grésil, parfois de l'orage et beaucoup de vent pouvant atteindre les 100 km à l'heure et même 120 sur les régions voisines de la Manche, en particulier autour de la baie de Seine. Il reste un peu de soleil cet après-midi entre la Provence et la Corse. C'est encore un peu juste dans l'Est avec 4 à 8 degrés. Ailleurs, ça se radoucit, 8 à 14 degrés, 12 degrés à Auch, où dès demain, vous retrouverez France Inter sur une nouvelle fréquence, 88.2. Changement aussi pour Pamiers, vous pourrez nous suivre sur 104.9.